Le musicien et compositeur Romain Dickez sortait son nouvel et cinquième album Building et Piano Studies le 9 septembre dernier chez Clapson Records. Auteur de toutes les compositions, il signe un disque lumineux d'une grande exigence ou dialogue d'évidence sur 4 titres, un quintet de jazz et un quatuor à cordes. Puis suivent 13 compositions pour piano solo où Romain Dickez quitte son sax ténor pour le clavier. Cet enregistrement fut l'occasion d'une rencontre au mois d'août près d'une fontaine riézoise. Vous l'entendrez pour un entretien où le saxophoniste, désormais également pianiste, prit le temps d'évoquer ce disque très inspiré et surprenant, mais aussi il évoque ses compositions, les instruments, son métier, sa vie de musicien parisien après avoir été basalpin. Aujourd'hui, c'est la diffusion de la première partie de cet entretien, la suite jeudi prochain. Durant cette première partie, nous entendrons les titres dans l'ordre, extrait de Piano Studies, Welcome Home et The Bells, suivi de Building. Et je préciserai que pour cet album, les musiciens sont, alors pour Building, le quintet de jazz est composé de Robin Nickez au sax ténor, Fred Pasqua à la batterie, Yoni Zelnik à la contrebasse, Clément Simon au piano et au Fender Rhodes, Sandro Zerafa à la guitare, avec sur le titre Building la contrebasse additionnelle de Pierre-François Morin. Quant au quatuor à cordes, il est composé de Yuri Bessière et de Fanny Lévesque au violon, Alain Martinez au violon alto et Consuelo Uribe au violoncelle. Et enfin, les Piano Studies sont interprétés en solo par Romain Dickez. Robin, ce titre Welcome Home, extrait de ce nouvel album, un album en deux parties. On pourrait parler de partie classique quand on connaît Robin Dickez pour ce qui concerne les quatre premiers titres, suivi de 13 piano studies, autant dire des études pour piano. Pourquoi avoir fait ce choix?
Tout d'abord, bonjour à tous et bonjour à Fréquence Mistral, bonjour Olivier. C'est un choix qui s'est un petit peu imposé au fil du temps, qui était, en fait, il n'y avait rien de prémédité au départ. Puisque la première partie du disque, comme tu l'as dit Olivier, c'est une espèce de concerto en fait finalement pour saxophone. Il y a un quintet jazz, il y avait mon quintet de l'époque, plus j'ai fait appel, j'ai écrit des arrangements pour un quatuor à cordes. On est 9 musiciens, donc toute la première partie du disque c'est un dialogue entre moi-même au saxophone ténor avec cet orchestre, ce quatuor à cordes. Donc c'est une première partie qui est assez onirique, très classisante finalement, un peu c'est très cinématographique on pourrait dire comme musique. Au départ, ces morceaux faisaient partie d'un ensemble plus grand qu'on avait enregistré en 2013 à la Buissonne. Et il y avait d'autres morceaux qui étaient en quintette. Et puis avec le temps, en fait, comme ce disque n'est pas sorti à l'époque, il était dans mes tiroirs. Et j'ai traîné un petit peu, j'ai fait d'autres projets, puis j'ai traîné un peu pour sortir. Et puis avec le recul, finalement, j'avais envie de juste sortir les morceaux avec le quatuor à cordes. Et du coup, comme ça faisait à peu près 25 minutes et que c'était pas suffisant pour faire un disque entier, comme dans l'intervalle, les 10 dernières années, j'avais écrit beaucoup d'études pour piano, puisque je me suis, avec le temps, un peu passionné pour cet instrument, et je l'ai travaillé un peu plus sérieusement, on va dire, eh bien, j'avais beaucoup de morceaux pour études pour piano. Comme pendant le Covid, en tout cas, j'ai pas joué, quoi, comme beaucoup de musiciens, j'ai passé un an, en grosso modo, sans faire de concert. Je me suis dit, tiens, tu vas essayer de mettre à profit cette période, essayer d'en faire quelque chose, et du coup, je me suis mis à travailler, et je me suis dit, tiens, je vais enregistrer finalement moi-même. Au départ, c'était pas du tout prémédité, mais je me suis dit, finalement, je vais enregistrer moi-même ces morceaux. J'ai réuni en fait ces deux matières, il y a une jonction avec un morceau et ça fait un seul et même disque alors qu'au départ c'était pas du tout prévu comme ça. Du coup j'ai mis 10 ans pour... parce que finalement mon dernier disque, Nouvelle Ère, était sorti en 2010. Alors c'est vrai qu'entre temps j'ai collaboré avec plein d'autres artistes mais j'avais rien sorti sous mon nom depuis une dizaine d'années quoi. Voilà.
c'est pas complètement anodin non plus, parce que le fait, je crois que tu composes au piano principalement, même si j'imagine que tu composes également saxophone.
Alors c'est vrai, et c'est vrai que j'ai la particularité de tout écrire au piano. J'ai des idées au saxophone, mais le saxophone, moi j'imagine l'orchestre au piano, et après je transcris pour les instruments. Et ça fait des années que je travaille comme ça, hein, puisque tous mes albums précédents ont été pensés de cette manière-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, comme ça fait 20 ans que, en gros, j'écris au piano, pourquoi j'écrirais pas carrément des études pour piano solo ? Voilà, ça s'est imposé un peu naturellement, finalement.
Il y a quelques années, lors d'une interview pour Fréquence Mistral, il y a de nombreuses années même, tu m'avais expliqué justement quelle était la puissance du son qui venait de la proximité des notes pour la composition. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots à ce sujet ?
Ah oui, c'était à l'époque de mon disque Lumière. C'était autour de 2005. C'était justement l'époque où on s'est rencontrés tous les deux, donc où j'habitais à Roumoule. Et Lumière, mon disque venait de sortir et j'avais écrit beaucoup d'arrangements à l'époque avec le système de fragments modaux. Alors, sans aller trop loin dans les détails techniques, en fait, les fragments modaux, c'est l'art de créer des intervalles assez proches qui sont ni en fait des accords répertoriés, ni des arpèges, qui sont en fait entre deux. Voilà. Et j'avais à l'époque écrit pour trombone, cor et saxophone, et je m'étais servi beaucoup des fragments modaux, des intervalles proches, comme ça, pour créer de la proximité et un son un peu particulier. Ouais.
D'où vient cette puissance du son ?
Alors à l'époque, en tout cas pour ce disque Lumière, à l'époque c'était le mélange de fragments modaux et aussi le mélange des timbres, puisque le cor, le trombone et le saxophone ténor sont dans les mêmes tessitures. Donc j'avais réussi à brouiller les cartes avec ces trois tessitures très proches en fait.
Alors revenons à ton actualité, en tout cas pour ce qui est de la discographie, Building et Piano Studies. Je voudrais revenir sur ces Piano Studies, donc études pour piano, c'est un terme classique au départ. Qu'est-ce qu'une étude pour piano ? C'est une caisse courte ?
Une étude pour piano, dans la littérature musicale, c'est un sens assez large. Mais on va dire que déjà, ce qui est commun en général à toutes les études pour piano, c'est que c'est du piano solo déjà. Ça, c'est important de le... Alors, il y a quelques grands compositeurs qui étaient vraiment spécialistes du piano solo, comme par exemple Chopin, qui a quasiment écrit toute sa production musicale en piano solo. Après, dans le jazz, par exemple, il y a des grands musiciens comme Keith Jarrett, qui est vraiment spécialiste du piano solo. Alors, le piano studies ou l'étude pour piano, c'est vraiment, on va dire, un style à part entière de la musique classique. Je me suis servi un petit peu de cette appellation pour la faire à ma sauce, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des consonances classiques dans mes études pour piano, mais il y a aussi, quand même, il y a des consonances très jazz. Et je trouvais que c'était intéressant, en fait, de présenter mon univers, qui est quelque part un univers intermédiaire entre la musique classique qui m'a nourri étant enfant, et qui continue à me nourrir, et le jazz que j'ai découvert assez jeune aussi avec le saxophone. Quoi.
Alors on va écouter deux titres de ces Piano Studies. Qu'est-ce que tu proposerais ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écrit ces pièces qui sont des pièces courtes. Elles ont la particularité de toutes faire entre 1 et 2 minutes en gros. La plus courte fait 1 minute, la plus longue fait 2 minutes en gros. Hein. Donc c'est vraiment des pièces courtes. Je voulais vraiment faire des pièces courtes parce que je suis obsédé aussi, peut-être on en parlera plus tard, mais je suis obsédé par la synthèse en musique, j'ai horreur du bavardage, donc je voulais faire des pièces très denses. Alors si on devait commencer, je pense qu'on pourrait tout simplement commencer par Welcome Home, qui est assez court et qui, je pense, peut bien introduire l'univers. Ouais.
Et ensuite, tu souhaiterais faire écouter quoi ?
Alors après, on pourrait continuer par The Bells, qui est un morceau que j'ai écrit pour mon fils, Émile, parce que il vient d'avoir 4 ans, là, et il y a un an ou deux, il était complètement fasciné par les pompiers et les cloches, les cloches de village et les pompiers. Et en fait, The Bells, c'est un morceau qui propose en fait tout le long du morceau un intervalle de secondes au piano, doré, qui est en fait l'intervalle caractéristique des pompiers, de la sirène des pompiers, do, 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 do. Et en même temps, à l'intérieur, j'ai aussi mis comme des cloches qui résonnent. Donc The Bells, c'est un hommage donc à mon fils et c'est la double référence à la sirène des pompiers et aux cloches de village.
Thank you. Quand on prend un album physiquement, qu'est-ce qu'on voit en premier? La pochette, qui est aussi une très belle pochette.
Merci.
Vraiment une grande réussite.
J'ai eu
l'avis d'une peintre il n'y a pas longtemps à ce sujet qui a trouvé ça formidable.
Eh bien écoute, en fait l'histoire de cette pochette, disons que c'est encore une fois, ça ne s'est pas imposé tout de suite. Mon dernier disque Nouvelle Ère qui est sorti en 2010, c'est un ami qui s'appelle Julien Montmanceau, qui habite à Paris, qui est passionné de musique et passionné de graphisme, qui avait réalisé ma pochette précédente. Il a participé quelque part directement à l'enregistrement de Building, puisqu'il m'avait suivi avec une équipe technique à la Buissonne. Il avait filmé, etc. Enfin, il y avait des belles images qui étaient ressorties de ce projet-là. Et il avait écouté la musique et il avait travaillé sur une pochette. Et cette pochette, c'est celle-là. Et en fait, c'est pas lui, au départ, qui a créé vraiment, qui a dessiné la pochette. Il s'est inspiré d'une espèce de carte à jouer, à assembler. Et en fait, c'est Ted Now, c'est un auteur, un architecte américain qui a commercialisé ces cartes. Et à partir de ces cartes, mon ami Julien les a assemblées et a fait ce design. Quoi. Voilà.
C'est presque collage, voilà, très beau. C'est, hein, voilà, aussi. Et ça ressemble à ton disque.
En tout cas, quand j'ai vu cette pochette-là, ce visuel, j'ai tout de suite dit j'adore. Et ce que j'aime dans cette pochette, déjà c'est la couleur, parce que il y a une couleur dorée, et quelque part, ce disque, symboliquement, représente, on va dire, une espèce de point d'orgue dans ma carrière. Déjà parce que je vais avoir 43 ans, donc j'arrive à un âge, on va dire, un petit peu mûr. En plus, j'ai fait un certain nombre de disques avant, et de par son contenu, il y a une espèce de maturation et de maturité, et je trouvais que c'était un peu mon disque d'or, quelque part. Donc déjà, j'aimais beaucoup la couleur, et en plus, il y a quelque chose de contenu et de presque austère, finalement, dans la pochette, de presque minimaliste, qui, je trouve, va bien avec la musique, quoi. Je trouve que j'aime bien l'idée du fond et la forme dans la pochette. Je suis un peu old school, hein. Je revendique ce côté un peu vieille école, c'est-à-dire que quand on découvre un disque, on est autant fasciné, finalement, on a notre curiosité excitée par la pochette, on a envie d'en savoir un peu plus. Et moi, j'ai les grands disques comme ça, je me suis toujours intéressé à la pochette, et pour moi, le fond et la forme sur un disque, c'est vraiment important. Il faut que la pochette donne envie d'écouter, que ça titille la curiosité, quoi.
Alors, en la regardant, on se dit, là non plus, pas de bavardage.
Non, c'est ça, c'est vrai.
Et justement, quels seraient les grands saxophonistes qui, selon toi, ne bavardent pas?
Il y a deux questions, en fait, dans ce que tu me dis. Mes influences, et puis après, peut-être aussi les gens qui bavardent pas trop. C'est vrai que le saxophone peut être un instrument bavard, je trouve. Enfin, les cuivres en général, mais tous les musiciens peuvent être bavards. C'est un défaut qui peut pendre au nez de tous les musiciens, ça, on le sait, hein. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une préférence pour les gens qui s'expriment avec des solos assez courts, bien que... Moi, je suis un grand fan de Coltrane, et Coltrane, on sait que dans sa vie, il a pris à un moment donné des très longs solos exploratoires, etc. Alors c'est vrai que Coltrane est un petit peu l'exception pour moi, qui confirme la règle. Mais en dehors de Coltrane, qui se lançait dans des longs solos, j'aime beaucoup les vieux ténors, quoi. Par exemple, Lester Young, Stan Getz, Dexter Gordon, des gens qui, à l'époque du vinyle, à l'époque d'un 178 tours et voire après d'un 33 tours, étaient capables en quelques grilles, de prendre un chorus sur 30 secondes et de tout dire, quoi. Et moi, pour moi, c'est vraiment la leçon. Et j'ai toujours la hantise quand je joue, que ce soit en live ou en disque, j'ai toujours la hantise de la grille de trop, quoi. Tu sais, là, tu prends un tour de trop et là, tu commences à te répéter et tout. Et tu commences à t'ennuyer, tu commences à ennuyer l'auditeur. Puis c'est toujours une espèce d'obsession que j'ai, comme ça, d'essayer d'aller à l'essentiel, voilà.
Tu y penses vraiment ou tu arrives à profiter pleinement du moment?
Alors, j'ai toujours cette analogie, en fait, avec la cuisine. C'est que je pense que la musique, quand on la fait, c'est comme la cuisine quand on est un cuisinier. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est concentré pour faire une recette, pour faire plaisir aux gens. Mais soi-même, au moment où on est concentré pour le faire, c'est d'abord beaucoup de concentration, de rigueur et de travail. Si j'arrive à en plus faire plaisir aux gens et en plus prendre du plaisir, c'est l'idéal. Mais mon souci premier quand je joue, c'est d'abord de faire plaisir aux gens qui m'écoutent. Ça, c'est important pour moi.
Quelques minutes ou quelques secondes dans un set suffisent déjà.
Exactement. Et c'est la grande phrase de Stan Getz qui disait... Stan Getz qui parlait de lui-même à la fin de sa vie, qui disait... Parce qu'il était croyant, comme beaucoup d'Américains, et il disait... Dieu m'a donné la possibilité de rendre les gens heureux pour quelques secondes ou quelques minutes le temps d'un concert. Et c'est un cadeau, un grand cadeau pour moi. Je me compare pas du tout à Stan Getz, mais par contre, cette phrase m'a toujours interpellé. Et si... par le biais de ma musique, je peux rendre les gens un petit peu heureux, ou faire en sorte qu'ils s'évadent, qu'ils s'élèvent ou qu'ils rêvent. Voilà, en tout cas, le temps d'un concert ou d'un disque, ben, pour moi, c'est mon but, quoi. C'est...
On va revenir au début du disque. Il y a donc 4 titres avec ce surtitre, on va dire « Building ». Pourquoi construction, d'ailleurs ?
J'ai pris l'habitude depuis, on va dire... J'avais déjà fait ça sur Lumière, un disque qui est un petit peu cousin de celui-là, parce qu'il est très orchestré, il est assez scénarisé, on va dire. Je voulais écrire une intro qui soit vraiment cinématographique et qui invite à l'évasion. Parce que, en fait, moi je suis musicien, je fais pas de la musique classique, je fais pas du jazz, je fais pas du rock, je sais pas ce que je fais de la musique. Et quand j'écris, comme je venais de te le dire, je veux que les auditeurs voyagent. Et je voulais écrire une introduction qui vraiment soit très large et qui donne l'envie à l'auditeur de voyager, d'aller plus loin, quoi. C'est vraiment une intro, quoi. Building, le premier morceau, c'est vraiment l'intro, voilà, avec ce son grave qui arrive, du thème, avec les contrebasses, etc. Encore une fois, c'est très visuel. Quand j'ai écrit ça, j'avais beaucoup d'images en tête. C'est très visuel, quoi.
On peut peut-être citer les personnages de ce quintet.
Alors, les protagonistes donc, de ce quintet, donc il faut dire, il y a mon fidèle compagnon et ami batteur qui est aussi le parrain de mon fils, qui s'appelle Fred Pasqua, à la batterie. Et donc ça fait... Fred Pasqua, on s'est rencontrés en 2005 justement, au Cavalulu, à Fort-Calquier. On les avait programmés avec son groupe à l'époque. Il était venu et donc ça fait 16 ans que je joue avec lui. On a fait beaucoup de concerts, évidemment, on continue à jouer ensemble. On a enregistré beaucoup de disques ensemble. Donc Fred Pasqua, donc, qui est vraiment souvent à mes côtés, à la batterie. Yoni Zelnik à la contrebasse, qui était déjà présent sur mon précédent disque Lumière et sur Nouvelle Air aussi, c'est la troisième fois qu'il est avec moi. Sandro Zerafa, il était déjà là aussi sur Nouvelle Air, il y a 10 ans. Je m'aperçois que je suis assez fidèle en musique, c'est-à-dire que quand ça se passe bien avec mes musiciens, je ne change pas, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien conserver vraiment une longue amitié, une longue relation avec mes musiciens. Je ne suis pas trop du genre à... Si je dois changer de musicien, c'est vraiment que j'ai pas le choix, quoi. Mais j'aime pas trop changer de musicien, j'aime bien plutôt au contraire écrire quelque chose au long cours avec les musiciens. Alors le nouveau, en tout cas pour ce disque, c'était le pianiste, c'est Clément Simon, donc ce pianiste que j'ai rencontré à Paris. On avait joué à l'époque au Duc des Lombards et j'avais été enchanté par son jeu. Et dans ce disque, il est au piano et au Fender Rhodes. Le Fender Rhodes, un instrument qui était déjà très présent dans mon précédent disque. C'est vrai que c'est un instrument, une sonorité que j'aime beaucoup, moi.
Ce petit clic
Ouais, j'aime bien, ça rajoute à la fois un peu d'électricité, puis de moelleux. Le Fender Rhodes, historiquement, c'est Fender, donc évidemment, qui l'a créé. Au départ, ça a été créé par l'armée américaine pour les GI pendant la guerre du Vietnam.
C'est pas possible.
Si, ouais. Comme c'est une mécanique, c'est électroacoustique, donc il y a une mécanique réelle comme un piano normal. Mais c'est beaucoup plus léger et c'était beaucoup plus facile à transporter dans la jungle. Et c'était pour divertir les GI, donc il y avait des filles qui chantaient, on leur balançait comme ça des Fender Rhodes. Et au départ, c'est encore une invention comme Internet, c'est encore une invention de l'armée qui a été très popularisée, quoi, finalement.
On a évoqué tout le monde, non ?
Non, alors enfin, en tout cas, on a évoqué les gens du quintet. Donc j'ai fait appel à un quatuor à cordes. Et là, c'était vraiment la particularité parce que j'ai beaucoup travaillé sur les arrangements. Avant ce disque-là, j'avais jamais travaillé pour les cordes. Donc pour moi, ça a été vraiment la nouveauté. Ça n'a pas été forcément bien tout de suite ce que j'avais fait, donc j'ai retravaillé, j'ai pris le temps d'écouter, de retravailler. Donc les membres de ce quatuor à cordes, donc c'est Yuri Bessière qui est au premier violon, Fanny Lévesque, violon 2, Alain Martinez donc, qui est au violon, enfin à l'alto ce qu'on appelle, et Consuelo Urubé qui est donc au violoncelle. Donc c'est la mouture, on va dire, classique du quatuor à cordes, hein, c'est-à-dire deux violons, un alto et un violoncelle. Donc j'ai vraiment pris la mouture de ce qu'on appelle la musique de chambre, quoi, un orchestre symphonique en miniature en fait. Hein.
Qu'est-ce qu'ils ont dit de ton écriture justement ? Parce que tu n'avais pas l'habitude, tu viens de le dire.
Les premières répétitions étaient peu concluantes, hein, il faut que je sois honnête. Donc j'ai retravaillé mes partitions et puis après on a trouvé le... déjà il fallait qu'il s'habitue aussi à jouer avec nous, enfin c'était pas évident, donc il y a eu pas mal de travail, on peut le dire. Les choses ne se sont pas faites forcément si facilement que ça au début. Et puis après, quand mes partitions étaient mieux travaillées, dans un deuxième temps, les choses se sont faites beaucoup plus naturellement. Et en fait, c'est toujours pareil, si la musique est bien écrite, si elle est bien pensée, forcément, tout de suite, les musiciens ont plus de facilité à jouer et tout est plus facile, quoi, voilà.